Le masque et la plume. Bonsoir à tous, bienvenue, malheureusement sans public, mais c'est exceptionnel. Bienvenue au studio Charles Trenet de la Maison de Radio France pour Un masque et la plume, consacré cette semaine à l'actualité du cinéma avec les grands esprits de la critique, Michel Simon de Positif, Jean-Marc Lalanne des Inrecuptibles, Éric Nohoff du Figaro, Alain Rioux du magazine littéraire, mais également, c'est important, du Vélo Cycloclub de Saint-Mandé. On parle ce soir de Gauguin, de Mon Garçon, de Faute d'Amour, de The Party, de Ça, de L'un dans l'autre et des grands esprits. Vous voyez que c'est un programme quand même très varié. Dans le courrier de la semaine, eh bien, un flot de messages énervés, le mot est faible, à propos du Barbara de Mathieu Amalric. Quelques rares exceptions, comme Pierre Cusor, qui parle d'un sublime film où Jeanne Balibar est magique, ou encore David Nenin. Barbara, un film qui évite l'écueil de la simple reconstitution d'époque en rendant un hommage sincère. Il fallait oser, ou encore Christine Fink, qui nous parle d'une Jeanne Balibar aérienne, féerique, qui incarne majestueusement Brigitte et Barbara. Je suis bouleversé par la magie du film, la magie du cinéma, pour tant de beauté. Merci et chapeau bas. Le reste est d'une très grande violence, quelques extraits d'une partie de l'ensemble du courrier que j'ai reçu. Marie Dufresne de Paris, tout à fait d'accord avec Éric Nohoff. C'est prétentieux, snob, bordélique. Amalric et Balibar ne se sont fait plaisir, mais ont-ils pensé au public? C'est un show pour Happy Few. Marie, totalement d'accord avec Éric Nohoff. On n'apprend rien sur Barbara. On ne l'approche même pas. Ce film, nous dit Cathy de Nogent, c'est de la poudre aux yeux. Vous êtes aveugle, dit Mathilde Lazuec. Amalric est incapable de faire son film, donc il met en scène son incapacité. Malin n'est pas cinéaste. Ou encore Isabelle Marnier, Barbara est décrite ici comme une hystérique artificielle à l'humour forcé, pénible. Ce film est un sacrilège prétentieux, égocentrique, irrespectueux, indigne, un contresens total. Pour Olivier Blondel de Rouen, ce film est d'une prétention et d'un ennui incommensurable. On dirait une caricature de film français nombriliste. Ou encore Laurent Masliac de Paris, Barbara, c'est une voix unique. Or, demander à Jeanne Balibar de chanter, c'est de l'escroquerie. Non seulement elle chante faux, mais surtout son style vocal est à l'opposé de celui de Barbara. Ou encore, et je vais m'arrêter là parce que j'ai pas envie de tout lire, Phil Godin qui nous dit que ce film est une insulte à la mémoire de Barbara, tout simplement. Je suis très frappé, non seulement par le nombre de mails et de lettres reçues, mais aussi par leur violence, avec, encore une fois, très très peu de défense, illustration d'Amalric. Je pense qu'Éric, bien sûr, il se tait tellement il est content d'avoir réussi son coup.
Non, il faudrait écouter Barbara.
C'est un film très original et très audacieux, ouais. Donc c'est, on peut comprendre qu'il déroute. Mais sur l'argument de « ont-ils pensé au public qu'exprime » une des lettres. Il faut dire que le film marche très bien, qu'il va probablement dépasser les 300 000 entrées France, peut-être même aller jusqu'à 400 000. Donc malgré tout, le film a suscité une vraie curiosité et sur ses spectateurs, je pense qu'il y en a quand même qui ont été conquis par la beauté du film.
La Tribune du Masque, on était à Nancy, c'est vrai que trois critiques étaient, je ne parle pas de l'animateur, était très favorable au film. Il n'y avait que Éric pour être contre. En même temps, dans le courrier, c'est l'inverse.
Oui, mais c'est ce qui se passe quand il y a un grand enthousiasme au masque des trois quarts de la Tribune était pour le film avec un énorme enthousiasme. Qu'en plus, comme le dit Jean-Marc, c'est un film qui divise, c'est un film qui a une forme de provocation, parce que formellement c'est très original. Il est normal qu'il y ait quelques dizaines de personnes sur les 1 million d'auditeurs qui écrivent des lettres de rage. Mais ça ne veut pas du tout dire que la majorité des auditeurs pensent ça du film.
Enfin voilà, allez, on commence avec un peu d'horreur, hein. Ça nous fera du bien un dimanche soir avec ça, le film d'Andy Muschietti qui cartonne aux États-Unis. Film que j'aurais peut-être manqué si Jean-Marc ne m'avait pas tiré les oreilles en me disant il faut voir ce film. Je sais pas si tu as raison. C'est tiré d'un roman célèbre de Stephen King où sévit un clown maléfique, kidnappeur, tueur, qui sort de son sommeil toutes les trois décennies pour bouffer des enfants et qu'une bande d'ados décide ici d'affronter. Et justement, moi, j'ai trouvé ça, Jean-Marc, d'abord un peu longuet, mais surtout pas du tout terrifiant, comme tu me l'avais presque annoncé. On sait maintenant qu'il va y avoir un second volet, hein, quand les ados vont devenir adultes. Je m'inquiète un peu, parce que si c'est vraiment sur le même tempo... tu m'avais annoncé de l'horreur et ça m'a manqué.
Je ne l'avais pas
peu.
Encore vu lorsque je l'avais parlé, mais j'étais très excité a priori par le film. Yeah. Et le film m'a un peu déçu, je dois dire. Et notamment, le roman de Stephen King est construit sur une sorte d'entrelacs entre les différentes temporalités. Et je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée de ramener les deux volets séparés à une chronologie linéaire classique. Je pense que ça affaiblit la complexité du roman de King. Après, je trouve quand même le film inégal, mais vraiment pas inintéressant. Je trouve qu'il réussit isolément quelques très bonnes séquences, notamment la première avec un petit garçon qui va être aspiré par un clown dans un égout. Je la trouve vraiment extrêmement bien filmée et elle réussit à créer une atmosphère qui fait que c'est pas seulement une peur mécanique par des effets un peu grand-guignolesques de terreur, mais à créer une angoisse beaucoup plus profonde, beaucoup plus sourde, qui touche à l'inconscient et à l'imaginaire enfantin. Des scènes comme ça, il y en a plusieurs dans le film. Il y a aussi une scène d'où une jeune fille, une adolescente, a une vision et se trouve agressée par des cheveux qui sortent de son lavabo. C'est un moment où il y a une créativité des effets visuels qui donne quelque chose de plastiquement assez beau. Mais étrangement, ces quelques morceaux de bravoure très réussis ne créent pas une progression dramatique où l'angoisse irait crescendo et le film se perd un peu dans des effets spectaculaires un peu vains, une mise en scène à l'épate qui, même si les effets visuels sont très beaux, je trouve que la caméra en rajoute avec une volonté d'être virevoltante qui est un peu clinquante. Donc voilà, je trouve pas le film totalement accompli.
Même ce qu'il peut y avoir de gore est un peu clinquant, je trouve.
Oui, le film est trop clinquant, trop emphatique, avec quand même quelques morceaux de bravoure que je trouve impressionnants.
Michel?
Oui, bon, ce cinéaste argentin, parce que c'est un
argentin. Oui, d'origine argentine.
Voilà. Moi, ce qui me frappe, c'est vraiment que c'est un pot pourri. C'est-à-dire que c'est un film où il n'y a absolument aucune unité de style, aucune unité d'atmosphère. L'essentiel du film, c'est tout de même une bande de sept jeunes gens qui s'appellent les ratés.
Oui, des ados.
Et comme toujours, des ados. Et comme toujours, d'ailleurs, dans ces films-là, il y a toujours un ado qui est joufflu et obèse. C'est assez curieux. C'est une constante de ce genre.
C'est les États-Unis.
Stephen King. Non, Stephen King.
Il y en a 15, c'est pas beaucoup.
Stephen King a une grande imagination, incontestablement. Mais quand il est servi par des vrais metteurs en scène comme Cronenberg, comme De Palma, comme Carpenter, ou bien sûr pas comme Kubrick, parce qu'il déteste Shining, et donc c'est un film nullissime. C'est même un des plus beaux films d'après ses romans. Bon, donc là, on a affaire effectivement à un faiseur. Alors, ce qu'a cité Jean-Marc est tout à fait juste. Les quelques séquences qu'il a citées sont les meilleures, mais c'est des vraies séquences d'épouvante où l'épouvante est vraiment portée à l'incandescence. Le reste du film, je l'ai trouvé extrêmement cliché et aussi constamment où tous les parents sont défaillants. Alors la fille tue son père, le fils tue son père, etc. C'est-à-dire que c'est vraiment la démagogie, c'est-à-dire tous les parents sont des tarés, etc. Et la transposition dans les années Reagan, on était dans les années Eisenhower dans le roman, dans les années Reagan, n'est pas du tout convaincante.
Et encore une fois, il y a un tome 2 à venir, Eric.
Bah, le metteur en scène est un faiseur, mais pas tout à fait un faisant, ce qui est déjà pas mal. Et ce qui est bien dans ce film, c'est que ça nous venge de toutes ces matinées qu'on nous imposait enfants au cirque, avec les clowns qui sont les personnages les moins drôles du monde. Et là, on voit que les clowns sont faits pour faire peur, que c'est l'imaginaire des enfants qui crée ça. Et je trouve ça assez réussi.
Enfin, quand on a lu les Stephen King, on connaît l'histoire. Tu vois,
oui, on connaît l'histoire, mais chez Stephen King, comme dans tous les livres d'épouvante ou de science-fiction, il sait jamais très bien comment finir. C'est une espèce de salmigondi, on comprend plus rien vers la fin. Et là, c'est un peu la même chose. Le début est la partie la plus réussie du film. C'est un peu comme dans le premier Alien. C'est quand on voit pas beaucoup le méchant clown. Ensuite, on l'a un peu trop sous les yeux.
C'est le boulevard du crime. On est vraiment au Grand Guignol.
Il y a du Grand Guignol.
C'est pour ça qu'il n'aime pas Kubrick.
C'est
parce
un film
bourré
de clin d'œil.
Kubrick a fait un film mental. Ouais. Et pour lui, c'est absolument pas ça.
Mais
l'horreur est physique. Ouais. Il doit être purement physique, pas mental.
Ça ne fait pas très peur, mais on s'ennuie pas tout le temps. Et ce que je craignais, c'est trop long, mais il y a aussi un tas de clins d'œil à d'autres films, aux Gremlins, dont on voit une affiche, à Stand By Me, sur les bandes d'adolescents,
qui étaient déjà tirés de Stephen King. Freddy, les clés de la nuit, qu'on voit sur le devant d'un cinéma.
Et il y a tout l'ennui de ces banlieues.
Dis-moi la vérité, est-ce que t'as eu peur ?
Non. Bah voilà. Mais je n'ai jamais peur au cinéma.
Non, mais ça pose un problème. Ah si, il y a des vrais films d'horreur, on peut avoir peur.
Dans Psychose, que j'ai vu à 11 ans, et La nuit des morts vivants, que j'ai vu à 16 ans.
Tu es très marqué par les films que tu as vus petit, je remarque.
Et plus non, par c'est le film. Intéressant d'ailleurs sur la question de la peur, parce que le film qui fait le plus peur de l'histoire du cinéma, il y en a un qui est absolument terrifiant, qui est un film de Wise, dont j'ai oublié le nom, un film de Robert Wise qui est
La maison du diable.
La maison du diable, où on ne voit rien. On entend tout le temps, on a une pétoche du diable, et c'est formidable. Alors, évidemment, diable, là-dedans, on n'a pas peur du tout, et on a d'autres... Moi, j'adore ce film, ça m'a beaucoup amusé, parce que ça m'a rappelé, j'ai rêvé, ça m'a rappelé un petit peu mon enfance, mais dans mon enfance, il n'y avait pas de père pédophile, il n'y avait pas de truc comme ça.
Enfance.
C'est une enfance interdite.
Ça pourrait se passer à Saint-Mandé,
les films de... on voyait beaucoup de films quand j'étais enfant, on voyait des films, c'est dans les années 50, on voyait des films de terreur, mais qui étaient chastes au possible. Qui étaient... Là, c'est quand même très, très vicieux. Et puis, il y a des égouts qui sont, d'une certaine manière, c'est un film qui est plein de merde. Et il faut quand même reconnaître que c'est assez rare au cinéma. C'est pas ce que j'ai préféré. Et si ça ne fait pas peur, c'est pour une raison extrêmement simple. C'est à cause de la loi de Tourneur, la loi de Jacques Tourneur. C'est-à-dire, le clown en lui-même est assez terrifiant quand on voit son maquillage. Mais dès qu'il ouvre sa bouche de brochet, on voit que c'est pas vrai. Et pour avoir peur, il faut qu'on voit que c'est vrai. Mais pour le reste, j'ai trouvé, il y a plein d'idées. Enfin, ça m'a amusé. J'ai beaucoup aimé la fille et ses cheveux. Et elle a des yeux merveilleux.
J'ai pas vu les chiffres, mais à mon avis, ça a dû bien démarrer.
Oh, c'était, moi, je l'ai vu à l'UGC Ciné-Cité, c'était bourré, avec un public qui réagissait au quart de tour. Non, ça va être un grand, grand succès populaire.
Ça, le film, donc, d'Andy Muschietti, après, très différent, là, je vous dis, on n'a pas peur du tout, après le Cézanne de Thompson, le Rodin de Doyon, le Egon Schiele de Dieter Berner, voici encore un biopic d'un artiste. Là, c'est Gauguin, Voyage de Tahiti, un film d'Edouard Deluc avec Vincent Cassel dans le rôle du peintre et la belle Touey Adams. Dans celui de Théoura, la Tahitienne de sa vie et de ses toiles, on est en 1891. Gauguin, la quarantaine, abandonne sa femme et ses cinq enfants et quitte Paris pour la Polynésie et il s'installe à Tahiti. Il tombe amoureux d'une toute jeune fille, Théoura, alors âgée de 13 ans, qui devient sa compagne et sa modèle. Inutile de préciser que dans le film, l'adolescente est devenue une jeune femme. Ils n'ont pas osé aller jusqu'à la vérité historique. Quant à Cassel, il s'est fait la barbe de Vincent Lindon dans Rodin. Il a pris des cours de peinture comme Lindon avait pris des cours de sculpture. La nature est très luxuriante, la mise en scène plutôt sobre. J'ai du mal à trouver le western vanté par Cassel dans toutes ses interviews. Il dit en fait c'est pas un film sur un peintre, c'est un western, auquel cas il est un peu lent. Et puis je vous donnerai deux indications évidemment d'une exposition et d'un livre à lire à propos de Gauguin, Eric.
Mais à quoi ça sert tout ça? Parce que
on peut le résumer comme ça.
Oui,
aussi.
Parce que moi je connais pas grand chose à Gauguin. Je savais que c'était un peintre qui était allé.
Je savais que c'était un peintre
qui était allé à Tahiti même. Mais
je
suis allé voir le film. Et effectivement, c'est un peintre qui est allé à Tahiti, mais rien de plus. Et il y a Vincent Cassel qui maniait mieux les revolvers dans le personnage de Mérine que les pinceaux en jouant un peintre. Non, là, c'est tous les clichés sur les artistes qui sont des gens qui boivent, qui vont dans des cabarets.
J'ai le sentiment, peut-être que je me trompe, j'ai le sentiment qu'il s'ennuyait en tournant ce film.
Mais moi, j'ai pas le sentiment.
Oui, il y a une espèce de côté terne, grisâtre. Alors, on voit à peine le soleil, on voit pas la mer, enfin très peu. Ça aurait pu être tourné dans la forêt de Rambouillet. C'était pas la peine d'aller là-bas. Non, j'exagère un petit peu, mais on voit pas du tout ce qui l'intéresse, pourquoi
enfin,
il est parti.
Enfin, écoutez, c'est vraiment dur de faire des films sur la peinture parce que quand on montre les paysages, on dit ça croule de beauté, d'académisme, etc. Quand on vous montre un truc sobre, etc., on dit bah oui, on voit pas les paysages. Enfin, ce qui est bien, on voit un paysage dans ce film constamment, c'est le visage de Cassel. C'est un portrait, c'est un film pictural, mais sur un portrait, pas sur des paysages, pas sur un truc, sur un portrait qui est extraordinaire, c'est un visage. On ne peut pas faire plus expressif. Il est d'une grande beauté, il est d'une grande sobriété, on a perpétuellement. Moi, j'allais à la rigolade. Mais qu'est-ce que tu peux voir ce film? J'ai vu de tels navets récemment sur des sur des artistes que celui-là, je commençais déjà parce que le début est pas bon. Le début là avec les c'est très très nombreux. Et puis quand il arrive à Tahiti, petit, on a envie de rire. Et puis petit à petit, on est saisi par une espèce de grandeur. Il y a un plan sublime qui est dans un hôpital où Gauguin n'a plus de toile, rien est peint sur une vitre. Et ça donne une espèce de cathédrale sobre avec un vitrail. C'est magnifique. Et ensuite, c'est un film sobre qui n'essaye pas de dramatiser, où on voit chaque fois qu'il y a une scène à faire, il ne la fait pas. Parce que dans l'œuvre de Gauguin, c'était les atmosphères qui créaient la peinture et non pas les spectacles.
Oui, mais un film, ça n'est pas un tableau.
On voit tous ces tableaux à la fin qui correspondent à ce que l'on a vu. Il y a énormément de détails qui sont intéressants. Il y a en plus le côté très intéressant sur les statues de Gauguin. C'est-à-dire où on montre qu'un créateur originel est dépassé, même financièrement, par ses imitateurs. C'est très intéressant. Et moi, j'ai trouvé ce film très bien, à une exception. J'ai beaucoup regretté qu'on ne raconte pas tout l'itinéraire de Gauguin. C'est-à-dire que Gauguin, le cinéma aime les gens qui vont jusqu'au bout d'eux-mêmes. Et Gauguin, avant de sombrer dans la peinture, ça a été pour lui un véritable naufrage, était un trader qui gagnait extrêmement bien sa vie en vendant de l'argent. Et c'est quand même extraordinaire.
Moi, j'ai persisté. Signe après le Cézanne dont je parlais, le Rodin, les Gonchil, je ne comprends toujours pas ce que fait le cinéma à propos des peintres ou des sculpteurs.
Il apprend aux gens qu'ils ne savent pas.
Il y a eu Van Gogh, il y a eu André Roublev, il y a eu des grands films.
Mais justement, je parlais de ces films-là.
Même Turner, notamment
Van Gogh de Piala, qui pour moi est un chef-d'œuvre. Michel.
Non, moi j'étais très très déçu par ce film parce que je pense qu'il escamote absolument tout ce qui est intéressant. C'est-à-dire pourquoi Gauguin a trouvé son inspiration en Océanie après une panne. Pourquoi il est parti là-bas. Il dit au départ je pars là-bas, mais ensuite une fois qu'il est là-bas, on ne comprend pas du tout les motivations qui ont aidé sa peinture à devenir géniale. Le colonialisme est complètement évacué. C'est-à-dire on se rappelle plus du tout que c'est un pays qui a été mis en coupe réglée.
Théoura, je le répète, était une fille. Tu l'as dit tout à l'heure,
c'est vrai, le côté presque pédophile du personnage, l'alcoolisme qui est complètement évacué, il était complètement alcoolique, même syphilitique. Donc je trouve que c'est un film somnolent, c'est un film, on dirait qu'il est pris par la langueur de la vie aux antipodes et que le film est contaminé par cela. Et si Édouard Deluc... D'ailleurs, Deluc, il lui manque un L.
Il aura pas
s'il avait eu deux L, il aurait pu voler.
À mon avis, il n'aura pas le prix.
S'il avait eu deux L, il aurait pu voler, mais malheureusement, le film ne vole jamais.
Jean-Marc.
Oui, c'est un film assez morne. En même temps, je pense qu'il y a une intention qui est de chercher quelque chose d'assez atmosphérique, de pas faire un biopic narratif académique, de jamais s'installer les scènes.
C'est un biopic, mais sur une période de la vie
mais assez peu psychologique, qui raconte très peu de choses, et moi j'ai l'impression, mais Michel va peut-être hurler, mais que son modèle, que dans sa tête, il se raconte qu'il pourrait faire quelque chose de proche de Terrence Malick. C'est-à-dire un cinéma totalement atmosphérique, où on passerait des visages aux paysages, avec un montage très très rapide, très cut, et où ça serait presque aérien, où on s'installerait jamais dans une scène. Et pour ça, il faut vraiment être un génie du montage. Et là, il y a vraiment un défaut de grâce absolue, ce qui fait qu'on a l'impression de ne rien voir et que le film traverse comme ça quelque chose en feuilletant des éléments, mais sans jamais que ça consiste.
Ça me fait pas hurler parce qu'on est très loin de la ligne rouge.
Gauguin, pardon, Alain, d'être seul, mais.
Oh, j'ai l'habitude.
Mais non, ce que Alain dit, est très juste, c'est sûr. Non, ce qu'Alain dit est très juste, c'est sûr. Vincent Cassel.
Oui, heureusement qu'il est là.
On a souvent dit que les films, c'est un documentaire sur son acteur, sur un acteur. De certaine façon, l'exploration du visage de Cassel est intéressante. Malheureusement, il n'y a rien d'autre.
Gauguin, voyage de Tahiti, c'est un film d'Edouard Deluc. Faute d'amour. D'Andrei Zvaginsev, le cinéaste russe et même sibérien d'Elena, film que j'avais adoré, de Léviathan, avec Mariana Spivak qui joue la mère, Alexei Rosine qui joue le père, Marina Vassilieva, un film qui était en compétition à Cannes où il a reçu le prix du jury. Genia et Boris, un couple moscovite en instance de divorce, les deux d'ailleurs se trompent autant qu'ils se haïssent. s'unissent pour retrouver leur fils Alyosha, 12 ans, il a disparu sans qu'on sache s'il a fugué, s'il a été enlevé au moment où il allait à l'école, et cela juste après une très violente dispute de ses parents. Pour le retrouver, il se lance dans une course-poursuite dans des paysages, il faut dire, absolument sinistres, escorté par une musique funèbre, film évidemment qui est l'occasion pour Zaginsev de dresser un portrait assez terrible de la Russie d'aujourd'hui. À Cannes, d'ailleurs, le cinéaste se réclamait surtout de Bergman. Il disait vouloir que son film soit comparé à Scène de la vie conjugale, film qui fait la une ce mois-ci. Michel, de ta revue de positif, à propos donc de ce film Faute d'amour, un film assez glaçant, il faut le dire, qui dure près de 2h10. Michel.
Je trouve que c'est d'abord, ça confirme Zaginsev comme tout de même un grand cinéaste. C'est son cinquième film et tous ses films ont énormément marqué. J'ai vu une tendance dans une certaine portion de la critique en France, reprochant à Zaginsev de juger ses personnages, etc. D'ailleurs, les critiques, ces mêmes critiques jugent sans arrêt ce qu'il...
Enfin, la presse est très bonne
dans l'ensemble. Mais la presse branchée, comme on dit, qui a beaucoup de panne de courant.
C'est quoi la presse branchée,
Michel? Tu la connais comme moi, ne tournons pas, on va pas recommencer.
Non, mais sérieusement, tu parles à la radio, il y a des...
C'est mon triangle préféré, c'est les Arocs, c'est...
les Arocs, on dit du bien du film.
C'est Libération, c'est les Cahiers du cinéma, voilà.
Je n'ai lu cette semaine qu'un article vraiment négatif, c'est pour ça que je vais jusqu'au bout de ta démonstration. C'est dans l'IB. Oui. Mais les Arocs, on en dit beaucoup de bien.
Oui, j'ai pas encore lu les Arocs.
Tu ne lis pas les Arocs?
Tu peux pas dénoncer le triangle des Bermudes si tu...
Non, mais arrêtons parce que... Voilà. C'est un film très beau et je pense qu'effectivement, si Bergman faisait des films aujourd'hui, il pourrait encourir le même reproche, c'est-à-dire de surplomber, d'être moralisateur, de critiquer, etc. Moi, je vois pas du tout ça. Je trouve que les personnages, les deux, le mari et la femme qui sont séparés, ne sont pas du tout caricaturaux. C'est des gens qui ont leur dimension humaine. Je trouve que Zaginsev est à la fois proche de l'âme russe, comme on dit, c'est-à-dire un sens prodigieux des paysages, la façon de filmer la neige, de filmer la forêt, de filmer les bouleaux, qui est magnifique. Et en même temps, c'est très contemporain, plus que Bergman, dans ce sens. Il parle vraiment aussi de la Russie d'aujourd'hui. On est en pleine guerre avec l'Ukraine, on le voit à la télévision, etc. Donc c'est un constat sur l'égoïsme aujourd'hui. Peut-être que la Russie est en train de rattraper le monde occidental, dans la mesure où les gens sont repliés sur eux-mêmes, sur leurs petits problèmes, et ils négligent cet enfant. Cet enfant, il y a une scène absolument magnifique où l'enfant entend une dispute de ses parents et il est à côté de la pièce et il est complètement figé, tétanisé par cette dispute parentale. Je trouve que c'est un moment absolument extraordinaire. Donc c'est un très très beau film. Et d'ailleurs à Cannes, avec The Square de Osloon, c'était les deux seuls films...
Qui va sortir dans 15 jours à peu près.
C'était les deux seuls films qui plaisaient à la fois aux étrangers et aux Français. C'est les deux films qui dominaient et je trouve que c'est un film vraiment vraiment
splendide. Square était plus...
Chez les Français, oui.
Diversement reçu. Alain ?
Moi, je trouve que c'est un bien pénible chef-d'œuvre.
Dis ce que tu penses.
Je trouve que c'est bien, que c'est pénible et que c'est un chef-d'œuvre. Mais le côté pénible, pour moi, est quand même un petit peu... Je lui fais des reproches. C'est-à-dire que si ça n'était pas un chef-d'œuvre, je pense qu'on serait très sévère envers le traitement des deux personnages principaux qui sont peut-être montrés avec subtilité, je ne sais pas, mais enfin qui sont des... Elle est une mégère épouvantable, fille de mégère. Le film, d'ailleurs, frôle perpétuellement la misogynie. Et lui est un... Oh, si. Enfin, toutes les femmes là-dedans, il n'y a pas une femme qui sauve l'autre, sauf peut-être parmi les volontaires qui cherchent l'enfant, puisque la police n'est pas capable de le faire. Mais ces dames-là ne sont pas très détaillées. Mais les femmes détaillées sont épouvantables. C'est-à-dire, il y a deux mégères, comme je vous dis, et la troisième est une idiote qui ne pense qu'à se regarder qu'à regarder son horoscope. Enfin, tout ça est absurde, et le type est un ectoplasme. Et c'est une chose qui est bon. Le film est beau parce que parce qu'il est beau. C'est vrai que c'est un chef-d'œuvre par sa forme, mais c'est vrai aussi qu'il y a quelque chose.
Tu dis ça d'un air dégoûté.
Et quand on me dit,
c'est un chef-d'œuvre.
Mais c'est un chef-d'œuvre exaspérant. Et quand on me dit que c'est extrêmement sévère pour la Russie, moi, ça me gêne beaucoup parce que je ne vois pas en quoi nous, on est supérieur à ces gens. On peut faire la même chose sur n'importe qui. Et quand on parle de Zvyagintsev a le droit de penser à Bergman, mais enfin, il me semble qu'il y a une subtilité chez Bergman sur les personnages, une façon de les creuser, de les approfondir, qui là est pas du tout, du tout, qu'on trouve pas.
Tu vois, et vraiment, Michel, Alain ne fait pas partie.
Et j'ai pas lu Libé, je ne lis même pas les critiques, ne lis plus les critiques. Parce que j'ai tellement
peur. Est-ce
que
tu les écoutes parfois au Masque et la Plume? Oui.
Tout le temps. Oui. J'écoute tout le temps le Masque. Et je l'écoute et j'adore ne pas être au Masque. Parce que c'est merveilleux de le découvrir et de dire, ah, oh, quel con.
Au pluriel.
Comme il a raison.
Ben, j'ai presque envie de t'engueuler parce qu'il aurait fallu consacrer toute l'émission à ce film-là. Le reste à côté, c'est zéro, c'est de la crotte de bique. Là, quand on a un film comme ça, on arrête tout, on quitte son bureau, on va dans une salle, on emmène la seule personne avec qui on serait prêt à affronter l'apocalypse, parce que c'est un film dont on sort, mais dévasté.
Ah, c'est pas connu comme ça depuis très longtemps.
Ah non, mais c'est un faire-part de décès. C'est l'amour est mort. Et c'est, pour paraphraser je ne sais plus qui, ça se passe en Russie, c'est-à-dire partout. Alain a raison, ça peut être en France. On voit cet enfant de 12 ans qui a un boulet pour ses parents, qui se comporte avec lui comme certains parents...
Enfin, les parents sont aussi des boulets pour lui. Hein.
Oui, d'accord, mais il se comporte avec lui comme les gens qui ne peuvent pas avoir d'enfants, qui en adoptent un et qui ensuite peuvent en avoir de leur côté et qui sont embarrassés par ce premier gamin. Et c'est horrible. Et ils ne pensent qu'à eux. Ils ont reconstruit leur vie, chacun de leur côté. Alors,
chacun de son côté.
Oui, dans une sexualité qui est triste, qui est moderne, qui est grise, qui n'apporte rien. Et quand cet enfant disparaît, il arrive à ce couple en train de divorcer. La pire chose, c'est que ces deux-là sont obligés de prendre leurs responsabilités, de faire semblant de s'entendre et de se revoir, alors qu'il y a entre eux la haine à l'état pur. Et ce film est d'une puissance, d'une violence, d'une justesse. Michel a raison, il y a une des scènes les plus inoubliables, la scène de la salle de bain qui a été choc, celle-là. Et il y en a une autre qui se passe dans un bâtiment officiel que je ne citerai pas pour ne pas gâcher le suspense. Il y a une ambiguïté, une subtilité dans le film, une violence et une beauté formelle. Peut-être que Zvyagintsev cite Bergman, mais scène de la vie conjugale à côté, c'était presque les bronzés, parce que là, la fin glace les sang, c'est terrible. Il y a plus rien à sauver, il y a plus que cet enfant qui a disparu et ce ruban qui flotte dans les branches d'un arbre comme un souvenir, comme un remords. Oh non, c'est un chef-d'œuvre. Et je le dis avec enthousiasme et pas en me pinçant le nez comme Alain.
Mais ça rejoint le constat de Rossellini dans Europe 51. Ouais. Là, ça pourrait être Moscou 2017.
Oui, exactement.
C'est-à-dire, justement, le suicide de l'enfant chez Rossellini.
Et ce metteur en scène est quand même
l'indifférence
incroyable.
L'indifférence des parents.
Il a fait 5 films et ce sont 5 très grands films. C'est quand même assez rare.
Jean-Marc. Le film a fini par me gagner alors que vraiment j'étais pas parti acquis au départ. D'une part parce que contrairement à Eric,
là, moi, tu parles de Cannes ou tu parles de
non, je parle du film par rapport à d'abord ce que je pensais de l'œuvre du cinéaste, qui est pas un cinéaste qui me passionne, et parce que j'étais quand même gêné par certaines choses. Notamment, je trouve qu'il y a une forme de redondance entre la forme du film et ce qu'il raconte, presque une trop grande cohérence entre cette vision, moi plus que misogyne, je parlerais de misanthropie, enfin une espèce de vision extrêmement noire de l'humanité, un procès de l'individualisme contemporain qui touche, à mon avis, à du puritanisme, enfin la diabolisation de la sexualité des parents comme causalité de la disparition de l'enfant. Je la trouve un peu lourde. Et je trouve qu'il y a une forme de lourdeur dans le film cadenassé par un système formel très très clos, et en même temps il est tellement virtuose sur la scénographie qu'il y a dans une sorte de musique du film qui m'a pris et qui crée une tension. Et c'est amusant parce qu'il y a beaucoup de, il y a 3 films cette semaine sur des disparitions d'enfants, oui. Et étrangement c'est peut-être le plus angoissant des 3, c'est-à-dire que purement par la scénographie, par la durée des plans, par la manière de faire circuler des personnages dans le plan, il crée une tension très très forte. Et je pense qu'il y a vraiment une très grande habileté de cinéaste qui a fini par transcender ce qui me gênait dans le côté finalement il y a plus de mystère que je ne pensais, malgré quelque chose d'assez explicatif dans le scénario.
C'est donc le film de Zvyagintsev, Faute d'amour, autre disparition, film totalement différent, c'est Mon garçon, de Christian Carion, le réalisateur de Joyeux Noël, avec Guillaume Canet et Mélanie Laurent, un film qui voudrait un thriller de haute montagne, que Alors, pour le coup, que je ne peux pas résumer sans expliquer au moins comment il s'est fait, puisque le personnage principal, c'est Julien, joué par Canet, qui est un géologue, toujours en vadrouille à travers le monde, qui, lors d'un de ses passages à Paris, trouve sur son répondeur un message de son ex-femme. C'est Mélanie Laurent, elle lui annonce que leur fils de 7 ans a disparu. Il était en classe de neige dans la montagne et voilà, là encore, tout laisse à penser qu'il a été enlevé. Julien débarque sur les lieux du drame et c'est le début du film. Et là, c'est pour ça que je dis ce qui se passe aussi derrière la caméra. Il faut savoir que Canet ne sait rien de son rôle puisque Carion lui a seulement remis une sorte de fiche pour qu'il sache qui il était, point barre. Les autres acteurs disposent de dialogues, mais Canet va devoir improviser pendant près d'une heure trente, 1h25, et donc mener l'enquête sans texte pour tenter de retrouver son fils. Le tournage a duré 6 jours. Dispositif tellement inédit que j'ai du mal à le définir. Est-ce que c'est un jeu de rôle, de la télé-réalité, du cinéma vérité? L'intrigue proprement dite, bah, quand on la comprend à la fin, elle n'est pas passionnante. Bah, je ne trouve pas que ça soit... C'est plutôt la méthode, la manière avec laquelle le film s'est fait qui peut intriguer. Alain?
Et moi, j'ai trouvé ça tout à fait intéressant. Pas réussi à cause de ce que tu viens de dire, Jérôme, c'est-à-dire que le canevas, le point de départ, c'est pas très intéressant. C'est un truc qu'on voit dans les séries policières françaises tout le temps sur cette disparition. Mais Carion est un personnage très, très curieux. Vous savez, il se trouve, je le connais parce que j'ai été dans un...
Je rappelle que tu as été le seul à cette tribune dans un masque, il y a quelques années, à défendre Joyeux Noël.
Oui, oui, et je ne connaissais non à l'époque, mais j'ai compris pourquoi je l'ai défendu après. C'est que c'est une très belle histoire, tout simplement. Mais j'ai rencontré Carion. Après, j'ai été dans un jury pendant assez longtemps, où tous les 6 mois on jugeait des scénarios. Et ce qui est curieux, c'est que Carion, qui faisait franchement un cinéma académique, il faut le dire, académique, était le plus ardent de nous tous à défendre les projets audacieux, les projets nouveaux. Il avait une vraie passion, et je pensais à son propos à André Messager, l'auteur de l'opérette Véronique, opérette très conventionnelle, qui s'est battu comme un lion à la fin du 19e siècle pour qu'on monte enfin le Péléas et Mélisande de Debussy, qui était le contraire de sa musique. Et là, je retrouve un petit peu, je trouve qu'il y a enfin une cohérence dans ce personnage, c'est-à-dire qu'il essaye, qu'il se lance...
Mais est-ce que le film t'a plu? Tu dis pas ça.
Non, mais lorsqu'on fait un film aussi original et aussi improvisé, il ne peut pas être entièrement ni bon, ni entièrement mauvais. Et il y a une scène qui m'a énormément frappé, c'est celle dans la où il cherche, enfin dans une forêt du Vercors, il cherche les ravisseurs de son fils, et il tombe sur un type qui arrive en 4x4, et le mec apparemment est pas dans le film, et il est aux limites de lui casser la gueule.
Mais, et il s'aperçoit... Il veut casser la gueule à tout le monde dans le film.
Oui, hein. Oui, non, ça c'est la limite. Et très violemment,
très méchamment. Une scène avec des chaînes,
qui
est assez violente.
Très violemment, trop violemment, c'est aux limites du ridicule. Ouais. Mais sur ce personnage, il y a des moments de vérité extraordinaires, ce personnage qui arrive, et c'est la façon dont il constate qu'il s'est trompé, et il se confond en excuses. C'est très curieux. C'est où brusquement,
et parce que, encore une fois,
la civilisation
tout
revient.
Tout est improvisé.
Oui, oui, mais on a l'impression que là, l'improvisation a été totale. Et c'est une curiosité, quoi.
Éric,
j'ignorais tous les détails dont tu viens de parler. Alors, il devrait distribuer un formulaire dans les salles.
Le film, en tout cas pour moi, n'a vraiment d'intérêt que si on sait ce que...
Ah bah parce que si on ne sait pas ça, on voit quand même un film très très banal, et je comprends mieux maintenant. Moi, je vois pas sur l'écran un père affolé parce qu'il se demande ce que son fils est devenu, mais un comédien qui sait pas ce qui va lui arriver à la seconde suivante. C'est ça le jeu de Canet. Mais en tout cas, c'est un film qui donne envie de se mettre au golf, parce que avec un club de golf, Vous êtes le roi du monde, là. Il peut y avoir des types avec des ordures, avec des revolvers, ils sont 3, ils sont 4. Mais alors, vous en faites de la chair à pâté, vous gagnez à tous les coups. Alors moi, je vais m'inscrire à un club de golf. Et le film est quand même pas très très bon, parce que le père découvre ce qui est arrivé à son fils en grossissant une photo de voiture, et il repère le numéro de la voiture. Alors que les flics sont évidemment nuls, n'avaient pas pensé à ça. Tous les flashbacks sont des films de famille muets, ça, on n'a plus le droit de faire ça. Mais alors, maintenant que je sais que Canet n'était au courant de rien, je vais aller revoir ça pour observer son jeu. Mais c'est une fausse bonne idée, ça, j'ai l'impression.
De le savoir, enfin, en tout cas, c'est inédit. Mais de le savoir fait que, de temps en temps, le spectateur a vraiment le sentiment d'être dans la propre recherche et la propre enquête.
Mais sur un sujet voisin et dans les mêmes régions, vaut mieux relire La classe de neige d'Emmanuel Carrère.
Michel.
Je trouve que c'est toujours touchant quand un cinéaste, ou peu importe, un écrivain, se remet totalement en question. C'est-à-dire qu'il a fait trois films en costume, trois films d'époque, très cadenassés, assez académiques, comme l'a dit Alain. Et puis voilà qu'il décide de faire tout autre chose, c'est-à-dire effectivement, même si on ne le sait pas, on le devine en regardant le film, que effectivement le scénario,
mais c'est un truc bizarre,
le
oui.
scénario n'a pas été vraiment écrit, que les dialogues ont été improvisés, et que Canet fonçait dans le brouillard. Alors c'est Valéry qui disait deux dangers menacent le monde, l'ordre et le désordre. Et je crois que c'est vrai au cinéma aussi, c'est-à-dire il a fait des films extrêmement ordonnés, maintenant il fait un film complètement désordonné parce qu'il n'y a pas de piste, c'est-à-dire qu'il travaille comme ça dans une sorte d'improvisation. Et le film est très banal, finalement, dans ce qu'il montre. Je veux dire, c'est un film noir. Alors, on peut faire de l'improvisation. Ça, il y a des films merveilleux de Cassavetes, par exemple, où il y a une grande part d'improvisation, parce que c'est des scènes de ménage, etc. Mais le film noir, et il y a des codes dans le film noir. Et ça demande, au contraire, une grande rigueur dans le déroulement du récit. Or, cette rigueur, elle est totalement absente.
Jean-Marc.
Ouais, mais le film ne se dégage pas assez de l'intrigue et de l'histoire, qui est quand même très présente. Ce n'est pas comme, disons, dans Police de Piala, où il se foutait complètement de l'enquête pour juste filmer des personnages entre eux. Là, malgré tout, il s'accroche à l'histoire. Et l'histoire, elle est vraiment... Il y a des invraisemblances, des rebondissements, des fausses pistes qui sont énormes. C'est vraiment des scénarios les plus faibles. Et même s'il a été écrit très vite et tourné très vite, en même temps, le récit qu'on a, il est tellement troué que c'est pas possible. Et sur la direction d'acteur, moi, je trouve que Canet comble l'écart avec les autres comédiens, qu'on voit pas tellement ce que produit cette méthode, qui n'est pas si inédite que ça. Le Louche a pu parfois expérimenter des choses assez proches.
Pas tout un film.
On sent que sauf et des choses un peu comme ça. Hein, et là, je trouve vraiment que le storytelling qui entoure le film, en nous racontant que cette méthode est totalement inédite, lorsqu'on voit le film, on voit pas qu'elle produit, sinon de l'approximation.
Eh bien, c'est...
Je veux dire un mot ?
Oui, bien sûr.
Il y a une chose, même, je voudrais parler du film, c'est ce qui est intéressant, c'est l'évolution de Canet comme acteur. Son dernier film qu'il a mis en scène, c'était l'autodérision, il se moquait de lui-même. Là, il crée l'angoisse, et tout de même, comme un peu le film sur Gauguin, mais beaucoup mieux, à mon avis, c'est aussi un documentaire sur Canet.
En tout cas, moi, j'ai entendu qu'il avait été tellement impressionné par la méthode du film de Carion qu'il a envie de l'adapter à
il ne veut plus apprendre son texte.
À l'un de ses prochains films comme réalisateur. Mon garçon, c'est donc Christian Carion. Les Grands Esprits, le premier film d'Olivier Ayache-Vidal avec Denis Podalydès. Léa Drucker, le petit Abdoulaye Diallo et Podalydès, vous l'imaginez, endosse parfaitement un costume taillé pour lui puisqu'il est François Foucault. Il est prof agrégé de lettres dans une cagne du lycée Henri IV. Pour la petite histoire, d'ailleurs, il a été interne dans ce lycée dans les années 80. Bref, à force de jouer publiquement les intellos de gauche, il est pris au mot et convoqué au ministère de l'Éducation où on lui demande de mettre ses belles idées en pratique et donc de quitter H4 pour aller enseigner dans un établissement de banlieue, exactement le collège Barbara de Stein. Une mutation
Maurice
propre.
Thérèse.
Dans le film, c'est Barbara, c'est Maurice Thérèse.
Sans Amalric.
Une mutation provisoire, mais évidemment radicale. Le film se double d'une histoire sentimentale sans aucun intérêt avec une collègue. Ça raconte surtout l'apprentissage de Monsieur Foucault au contact d'élèves dont il n'a pas l'habitude. Alors, il va les initier aux misérables, les emmener au château de Versailles. Et finalement, finir par beaucoup aimer ce dont, a priori, il avait peur. Sujet ultra rebattu. Au moins, c'est pas un film donneur de leçons, mais enfin, c'est pas neuf, avec un Podalydès, comme toujours, bien dans son costume, Jean-Marc.
Le film est quand même un peu donneur de leçons et
tu trouves qu'il est donneur de leçons
un petit peu, enfin en tout cas le film fait le choix de l'utopie et de l'idéalisme en avalisant absolument la piste du ministère de l'Éducation qui est représentée dans le film.
Ah oui.
Et donc le film est quand même assez bien pensant et donc c'est assez sympathique de croire que des transformations sont possibles et en même temps je trouve que la manière dont le film a aplani tous les conflits très très vite pour finalement on est presque dans le sac des poids disparus, le savoir-faire de Podalydès va faire des merveilles et on est quand même dans une naïveté que je trouve presque gênante par endroits. C'est un cinéma très très pantouflard, qui en même temps est assez bien écrit, Podalides est excellent. Moi je regrette juste qu'une piste qui est donnée au début du film, qui est une sorte de rivalité terrible entre cet homme de 50 ans et son père écrivain extrêmement reconnu. Et là on est presque dans un film de Bonizard, il y a quelque chose d'assez pervers sur cet homme qui au départ est ignoble avec les élèves brillants qu'il a en Henri IV. On comprend que c'est parce qu'il est lui-même humilié par la réussite d'écrivain de son père. Et cette piste-là, elle est délaissée pour un rapport frère-sœur que je trouve assez banal et pas très intéressant. Et il y a quand même un impensé du film qui, je pense, aurait gagné à être mieux traité.
Michel ?
Mais moi, je trouve que dans le désert des comédies populaires françaises, ce film est tout de même tranche, parce qu'il n'y a pas de vulgarité. On a parlé régulièrement de ces films qui font 4 millions d'entrées, qui sont nuls au point de vue de la lumière, nuls au point de vue des comédiens, nuls au point de vue des dialogues. Là, on n'est pas du tout là. Et en plus, moi, ce que je trouve savoureux, c'est même ce commentaire très d'actualité, c'est-à-dire qu'il veut du changement, mais pour les autres, pas pour lui. Et à mon avis, c'est tout le problème de la France. C'est-à-dire que les Français veulent du changement, mais que ça les concerne surtout pas. C'est-à-dire qu'ils veulent du changement pour les autres. Donc, quand il est nommé dans ce lycée, il est pas du tout content.
Il est lui-même un peu
alors qu'il le prenait.
Parce que
il
prof
le
de prenait. Lettres en Cagne à H4, c'est vraiment le haut.
Voilà,
le haut
absolument. Papier, mais là, il prenait pour les autres. Il disait, c'est les gens comme moi qui devraient enseigner dans la banlieue, mais dès qu'on lui dit d'y aller, il veut plus. Et d'autre part, je trouve que ce qui se passe, toi-même, dans la classe, du point de vue du jeu des comédiens, de tous ces jeunes lycéens qui sont... On a parlé à juste titre beaucoup de bien de Laurent Cantet dans Entre les Murs. Je trouve que toutes les scènes de classe sont tout à fait réussies au point de vue d'une sorte de semi-documentaire de réalisme très, très pertinent. C'est pas du tout un grand film. Hein. Je veux pas du tout le défendre en disant que c'est un film très important, mais c'est un premier film, en tout cas, qui ne tombe pas dans les vices habituels de la comédie française.
Éric ?
Oui, c'est complètement honorable comme film. Ça, c'est la modestie qui sauve ce film. Ça n'a pas un enjeu énorme. C'est pas du tout un film réaliste, moi, je trouve, parce que dans une classe comme ça, le Podalides...
C'est ce que Jean-Marc appelle l'utopie, justement.
Il aurait éviscéré les élèves. Et non, c'est un film comme un conte de fées. On a l'impression que dans cette classe, il y a un seul élève, celui qui a attiré l'attention du prof, et c'est les rapports entre les deux,
c'est formidable.
Ah oui, très bien, très très bien. Et oui. Bon, c'est pas du tout le Cercle des Poètes Disparus, moi, qui est un film que j'aime beaucoup, mais c'est la modestie, l'ambition minime mais très juste du film, avec des clins d'œil, parce que quand le prof arrive le premier jour au lycée, devant l'établissement, il y a une voiture brûlée. Alors je pense que ça, c'est pas vraiment la réalité. Mais c'est un petit film gentil, charmant, et qui, comme le dit Michel, qui nous change de la vulgarité à gros sabots de tous les films français qui veulent nous faire rire.
Alain ?
La même chose. C'est un film mignon, trop mignon, mais le début est un délice. Le début est d'une saveur. Je crois que c'est une fausse piste. Je crois que c'est une faute du film de l'avoir appelé Foucault, déjà, et d'avoir laissé entendre
non, parce
que son père est un grand
écrivain. Il surveille et il punit le film au début.
Non, mais ça n'apporte absolument rien, le fait de...
C'est un mauvais jeu de mots sur Jean-Pierre Foucault.
Oui, c'est tout. Mais c'est une fausse piste et c'est un autre film que tu nous proposes. Mais je trouve que c'est une comédie délicieuse jusqu'au bout, que le début est très juste et très fort, et que ce qui monte dans ce lycée est très bien. Et ensuite, je te rejoins totalement, il y a un idéalisme et il est dommage qu'il n'ait pas montré les vraies conditions, c'est-à-dire que les profs sont tenus par des programmes qui sont la plupart du temps pédants et qui passent au-dessus de la tête et qui emmerdent les élèves. Ils n'ont pas le droit d'improviser, ils ont des inspections et ils n'ont aucun moyen. Il y a une photocopieuse qui est très vite en panne pour 200 profs. Enfin, ça devrait être montré. Mais pour le reste, on voit un film très juste sur l'enseignement.
Les
et très
grands
amusant.
Esprits, Olivier Ayache Vidal, on peut aller très vite si vous êtes d'accord pour terminer avec ce parti. L'un dans l'autre de Bruno Chiche, Stéphane de Groot, Louise Bourgoin, Horatica, Pierre-François Martin Laval, un film qui reproduit un dispositif ultra usé, notamment au théâtre. Histoire de deux couples amis où la femme du premier couple et l'homme du second deviennent amants, à quoi Bruno Chiche ajoute une donnée nouvelle, puisqu'après la nuit d'amour, les deux se réveillent chacun dans le corps de l'autre. En gros, pour faire court, hein, Stéphane de Groot a le corps de Louise Bourgoin, et Louise Bourgoin, celui de Stéphane de Groot, ce qui évidemment rend les choses un peu compliquées dans leur couple respectif. Vraiment, rapidement, Alain.
Ah oui, moi je le trouve agréable, ce film de... Non, absolument, c'est un film agréable qui a un côté Gulliver, c'est-à-dire par ce système, voir les lettres persanes, c'est-à-dire par ce système, l'homme découvre quel animal étrange et la femme, oui. Et vice-versa.
Mais ça, c'est l'idée,
c'est fait
mais
à avec, l'écran. Non, c'est fait avec esprit, avec malice, et c'est très peu vaudevillesque. Il n'y a pas le côté cage aux folles, même pas Goodbye Charlie, c'est fait avec délicatesse. C'est assez élégant et amusant.
Jean-Marc,
moi, je suis un peu sur la même ligne qu'Alain. J'y allais un peu en craignant le pire. Et j'étais agréablement surpris. Parce qu'au départ, ça part très mal parce que donc l'homme devient la femme devient l'homme. Et le film reconduit tous les stéréotypes de genre les plus éculés. Un homme, ça mange de la viande. Une femme, ça mange du quinoa. Enfin, on se dit vraiment à ce degré-là de sexisme, c'est pas possible. Et chemin faisant, le film trouve des zones d'ambiguïté sexuelle, va assez loin quand même. Mais c'est, il y a du trouble sexuel. Il y a quand même un baiser entre les deux hommes. Je pensais pas que le film allait jusque là. Et même un espèce de jeu sexuel sur la découverte qu'on peut prendre en plaisir solitaire avec un corps qui n'est pas le sien, que je trouve assez amusant.
Bon, l'un dans l'autre, Bruno Chiche, je comprends très bien Eric et Michel qui ne l'ont pas vu. On termine avec ce film qu'avait ardemment conseillé à Nancy. Notre ami Pierre Murat, c'est The Party de la Britannique Sally Potter, le film le plus court de la semaine, 1h10, générique compris, avec Christine Scott Thomas, Timothy Spall, Patricia Clarkson, June Cherry, Bruno Gantz et Christine Scott Thomas et Janet qui vient d'être nommée enfin, elle en rêvait, hein, secrétaire d'État à la Santé avec son époux Bill, c'est Timothy Spall. Elle réunit des amis pour fêter la promotion avec des vols au vent et du jazz. Et parmi eux, la meilleure amie de Janet qui est accompagnée d'un coach de vie allemand, deux lesbiennes dont une attend la plus jeune des triplés, un jeune homme survolté et armé d'un revolver. Alors si on ajoute les effets de l'alcool à ceux de la coke et la violence du huis clos à celle des engueulades, voire des gifles. D'ailleurs, parfois, j'ai eu le sentiment d'être dans une pièce de Yasmina Reza, genre le dieu du carnage. On a une petite idée de ce film qui a été tourné en noir et blanc et en deux semaines, un peu plus longuement que le Carillon, avec un coup de théâtre final que je vous demande de ne pas dévoiler, quoi que vous en pensiez, Eric.
L'heure 10 m'a semblé un peu longuette, moi, parce que j'avais l'impression d'avoir déjà vu tout ça.
Non,
c'est beaucoup moins bien que n'a l'air de le penser la réalisatrice qui a aussi écrit le texte, parce que c'est du sous-pinter. On l'a déjà vu, le noir et blanc rajoute cet effet démodé. Et les Anglais boivent beaucoup, écoutent du jazz, se disputent, se reçoivent là dans des maisons. Et à part le coup de théâtre final, tout était téléphoné pour moi. C'est pas désagréable, j'aime beaucoup Scott Thomas. Mais sinon, ils en font un petit peu des tonnes et c'est vraiment une galerie de personnages presque caricaturaux.
Michel ?
Il y a que les Anglais pour réussir vraiment ce type de film qui pourrait paraître désuet parce que c'est 7 personnages dans un local, effectivement ça dure 1h10, c'est un mélange de Oscar Wilde et de Pinter, les deux, c'est-à-dire c'est très très bien écrit,
et je persiste,
c'est
Yasmina
formidablement
Reza,
écrit
le
comme souvent les films anglais, c'est magnifiquement interprété, c'est éblouissant et c'est une satire de la gauche caviar par une réalisatrice qui elle-même est de gauche mais qui se moque de ce milieu parce qu'elle est nommée en fait dans le cabinet fantôme, elle est nommée ministre de la Santé, parce qu'elle fait partie de cette élite de la gauche britannique, etc. Donc moi, j'ai pris un plaisir, je l'ai vu à Berlin, avec un très grand plaisir, par la virtuosité de l'interprétation. Les interprètes sont époustouflants et le film dure 1h10. Et je trouve que c'est du plaisir. Alors évidemment, ça ne transforme rien dans l'art cinématographique, ça a toujours existé, il y aura encore des films comme cela plus tard, et pourquoi pas.
Jean-Marc.
Je n'ai pas vu.
Pas vu. Alain.
Moi, je l'ai trouvé assez mauvais, pour être franc. Ça m'a plutôt fait penser à Albi comme théâtre, parce que c'est évidemment du théâtre. C'est plutôt le genre Albi.
Oui, c'est-à-dire on verrait très bien ça sur une scène.
Joe
Horton
avec
aussi,
beaucoup de dérision.
Pick up your ears,
avec,
Joe Horton.
Oui, si on veut, mais c'est fait avec une dérision que j'ai trouvée désagréable. J'ai pas aimé. En plus, j'y ai pas cru une seule seconde. Il faut quand même un minimum de crédibilité pour croire aux choses. C'est aussi artificiel que l'espèce
de renard
qui rentre au début.
Tu trouves ça peu
crédible? Je crois pas du tout au personnage. Vraiment, personne n'est comme ça.
Bon, eh bien écoutez, c'est le film donc de Sally Potter et c'est The Party, film, je le rappelle, que conseillait Pierre la semaine dernière. On a tout à fait le temps de faire différents conseils pour terminer cette émission et on va commencer avec Michel.
Alors moi, c'est l'aboutissement d'un travail formidable de Wildside en DVD qui a sorti 16 ou 17 films de Kurosawa accompagné à chaque fois d'un livre d'une centaine de pages, fait par des grands spécialistes comme Charles Tesson, par exemple, qui parle très bien du cinéma d'Extrême-Orient. Et les deux derniers qui sont sortis, c'est deux Kurosawa peut-être moins connus que d'autres, mais éblouissants. Il y a d'abord Barberousse, qui est un film en costume, donc de samouraï, mais c'est l'histoire d'un médecin au XVIIe siècle, enfin en noir et blanc, magnifique, en scope noir et blanc, absolument extraordinaire. Et puis l'autre, c'est Dodeskaden, qui est sûrement le film le plus fou de Kurosawa, avec des couleurs criantes, une sorte de fable, dans une sorte de ville presque fantasmée. On sait que Kurosawa a tenté de se suicider après l'échec de ce film. Et ce sont deux DVD tout à fait passionnants. Et c'est, je crois, le 17e, c'est la fin de cette production de Whiteside.
Le conseil de Jean-Marc.
Moi, c'est une reprise et c'est une autre adaptation de Stephen King. C'est Dead Zone de David Cronenberg qui ressort en salle, qui pour moi est vraiment un chef-d'œuvre. C'est le moment où Cronenberg intègre des studios et des films davantage produits. Et c'est un film absolument bouleversant et qui amène une matière émotionnelle au roman de Stephen King, qui fait que c'est aussi un mélodrame et pas seulement un film de terreur. Pour moi, c'est vraiment un chef-d'œuvre.
Mon conseil, c'est un coup de chapeau que je lance à Olivier Barrault, parce qu'il lance 3 ciné-clubs dédiés au cinéma français. Alors, il y en a 2 qui sont difficilement accessibles, hein, puisqu'il y a un ciné-club à l'Alliance française et à l'Institut français de New York ces jours-ci, et il commence avec Quai des Brumes de Marcel Carnet. Le second, encore plus, enfin, sauf pour Eric Neuf, c'est sur les vols de la compagnie Paris-New York, avec un ciné-club lui aussi mensuel. Et là, il commence avec En cas de malheur de Claude Autant-Lara. Je suis pas sûr que les gens aient envie de monter dans l'avion en voyant En cas de malheur. Et surtout, alors là, je le dis sérieusement pour nos auditeurs, c'est au Théâtre de Poche Montparnasse, à partir du 16 octobre. C'est mensuel. Chaque fois, ça sera ouvert par des films publicitaires contemporains du film. Il commence avec un revenant de Christian Jacques. Après, il y aura La Banque Nemo de Marguerite Vielle, Café de Paris d'Yves Mirand et Georges Lacombe, Bonne Chance de Sacha Guitry, Volpone de Maurice Tourneur, etc. Et donc ça, c'est au Théâtre de Poche Montparnasse, pour nos auditeurs parisiens, évidemment, à partir du 16 octobre. Le conseil d'Éric.
Le nouveau numéro de ma revue préférée, c'est Schnock.
Ah, oui, moi, j'adore cette revue.
Qui est consacré cette fois-ci au Charlot. Alors, on peut revisiter, comme on ne doit pas dire, toute leur carrière cinématographique, entre autres. Faut pas oublier que c'était les acteurs qui jouaient dans Les Fous du Stade, dans Les Bidas en folie, Les Charlots font l'Espagne, et qui sont des comédies qui n'ont pas du tout vieilli, parce qu'elles ne se prenaient pas au sérieux, et c'était bon enfant, et pas vulgaire du tout, pour une fois. Et il y a aussi un dossier sur Pascal Jardin qui est très intéressant. Et pour les petits curieux, il y a aussi un dégagement sur les meilleurs pipes du cinéma. Mais ça n'est pas ce à quoi vous pensez.
Voilà, c'est effectivement assez différent de la une de Positif, hein, quand on regarde la une de Schnock de ce mois-ci.
Oui, mais on peut aimer les deux.
Absolument. Le conseil d'Alain.
Eh bien, moi, vu mon ancienneté, je ne puis que conseiller le DVD de Thierry Frémaux sur Lumière, puisque vous savez que le film qu'il a consacré au Frère Lumière, qui est merveilleux, parce qu'il ajoute une parole délicieuse, une parole vraiment agréable à des images muettes et des images primitives. Donc ce film sort en DVD et en Blu-ray dans quelques jours, et je crois que c'est fondamental.
Film qui était sorti l'année dernière, à l'époque
très bon film,
du Festival de Cannes, au moment d'ailleurs où il publiait également son livre, dans lequel il racontait une année de délégué général du Festival de Cannes. Tous ces conseils, vous les retrouvez évidemment sur le site du masque et la plume, franceinter.fr. Merci Jean-Marc Lalanne, Michel Simon, Éric Neuf, Anna Riou, pour cette émission qui était comme chaque semaine présentée par Jérôme Garcin, avec la collaboration de Lisiane Selam. À la technique ce soir, au Charles Trenet, il y avait Julien Doumain, Tar Bouclifa, Emmanuel Arming et Sofiane Actib. La réalisation était de Didier Lagarde. Notez bien que le prochain enregistrement du Masque et la Plume, cette fois en public, un public nombreux, ce sera le jeudi 5 octobre, où je vous attends à 20h au studio Charles Trenet de la Maison de Radio France pour 2 émissions. L'une consacrée au cinéma, l'autre au théâtre. Dans une semaine, on parlera de littérature, et je vous dis à dimanche prochain sur France Inter, évidemment.